Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro qui est là pour l'émission C'est bon pour la santé. Et on est ensemble pour les 30 prochaines minutes. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir la journaliste et animatrice Marie-Claude Savard qui, après 4 ans, après l'apparition de son premier livre intitulé Orpheline, publiait tout récemment, en fait, hier, son deuxième livre 180 degrés, Virage d'une vie, qui aborde les grands changements qui peuvent survenir au cours d'une vie et tout ce que ça engendre, la peur du changement, les questionnements et finalement, ben, le passage à l'action. Elle sera là tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, Marie-Claude Savard. Et puis, ben, parler d'une maladie mentale, c'est rarement quelque chose d'aisé. C'est souvent délicat, on cherche à choisir les bons mots, on ne veut pas gaffer. Imaginez lorsque vient le temps de parler d'un épisode de maladie mentale que l'on a vécu personnellement. Et pourtant, à chaque fois que quelqu'un ose le faire, que ce soit une personnalité publique ou encore quelqu'un dans notre entourage, un parent, un collègue, une amie, ben ça fait véritablement du bien à plein de monde. Julie Tansey, elle, a reçu un diagnostic d'agoraphobie et de troubles paniques à l'adolescence. Et depuis ce temps-là, elle souhaite mettre fin à la stigmatisation, à l'exclusion aussi qui est liée à la maladie mentale. Et je la rencontre, je lui parle en fait à l'instant. Bonjour Julie Tansey.
Bonjour.
Ben, je dis on vous parle parce qu'on vous joint par une ligne téléphonique. Vous êtes à Longueuil, Julie, c'est bien ça?
Oui.
Et Julie, vous avez été choisie parmi plusieurs Canadiens, en fait, pour être l'une des 5 personnes qui est devenue ambassadrice pour la campagne annuelle des visages de la maladie mentale. C'est la 13e campagne. Et peut-être que ça vient du fait que, depuis longtemps, vous êtes membre de nombreux organismes, vous faites du bénévolat pour cette cause. Ça vous amène quoi, Julie, de partager votre histoire?
Ça m'apporte beaucoup de bien. Ça apporte beaucoup de bien autour de moi. Mm-hmm. Je suis même surpris cette année de tout le de tout ce qui ressort de ça. Je trouve ça important. C'est autant pour moi personnellement, avec un diagnostic d'agoraphobie, phobie sociale, puis tout ça, mais c'est sûr que de parler à la radio puis de parler en public, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé être capable de faire dans ma vie. Fait qu'en même temps, ça me donne comme un je me donne, tu sais, en donnant ma candidature, je me suis comme donné un défi supplémentaire.
Mais j'ai même lu que ce nouveau rôle, celui d'être ambassadrice pour cette campagne des visages de la maladie mentale, c'était presque une forme de thérapie pour vous.
Oui.
Donc, il y a une forme de guérison, ça vous permet d'aller mieux?
Bien, en fait, ça permet, c'est qu'à travers la campagne, on a tourné des profils vidéo. On a fait beaucoup d'entrevues, donc on a beaucoup de questions sur notre vie, sur tout ce qui s'est passé. Puis ça fait réaliser autant qu'est-ce qui est réglé, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, puis autant ça revient, ah ça, j'ai peut-être pas réglé ça, puis ça donne comme une idée de où on est rendu, puis de qu'est-ce qui reste à faire pour cheminer, parce qu'on chemine toujours dans la vie. Là.
Un peu comme un bilan.
Oui, ça fait, ouais, exactement, ça fait comme un bilan, puis en même temps, mais ça remet les choses en place parce qu'il y a la réaction de l'entourage aussi. On sait qui est là, pour quelles raisons, tu sais, il y a plusieurs choses qu'on réussit à obtenir en faisant ça.
Dans votre cas, Julie, la maladie s'est déclarée à l'adolescence.
Oui.
Comment ça s'est manifesté au départ?
J'étais au secondaire 3 environ, puis j'ai commencé... De plus en plus, je filais pas, j'étais malade, des nausées, des maux d'estomac, je restais à la maison, j'avais des absences de l'école, puis de plus en plus, ça a juste aidé de plus en plus nombreux, puis plus je m'absentais, pire c'était, puis éventuellement j'ai juste arrêté complètement d'aller à l'école parce que j'étais plus capable de sortir de chez nous.
Et bien sûr, ça amène la conséquence d'être exclu de la société lorsque l'on arrête d'aller à l'école à l'adolescence.
Oui, rendu là, oui, c'est ça, j'avais plus, tu sais, les amis, puis tout ça, je m'étais isolée, je m'étais renfermée, Puis c'est ça, je passais mes journaux complets dans ma chambre là, parce que je n'étais plus capable de sortir de là sans avoir des attaques de panique ou des gros symptômes d'anxiété. Mmh.
Julie, à quel moment vous vous êtes dit « OK, ça suffit, je dois aller chercher de l'aide »
C'était plutôt à cause des troubles de panique qu'à un moment donné, c'est que je pensais les symptômes étaient tellement forts, puis je faisais de l'hyperventilation, puis je pensais que j'allais mourir. Je pensais vraiment que j'allais mourir, que j'avais quelque chose de grave. Puis ça a été, je suis partie, ma mère a appelé l'ambulance deux fois. Puis c'est à partir de là que j'ai été hospitalisée.
Mm-hmm. Donc, la peur de mourir, c'est ça qui amène à aller chercher de l'aide.
Oui. Les symptômes étaient tellement forts, oui, c'est ça, que j'avais peur, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait.
Ça fait 25 ans que vous vivez avec l'agoraphobie, oui. Les troubles de panique, Julie Tanseille. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des impacts sur votre quotidien?
Oui. Mm-hmm. Oui, il y a encore des impacts. Par contre, c'est beaucoup moins pire que c'était. C'est sûr qu'il y a encore des impacts quand je suis plus fatiguée, quand il se passe quelque chose. Quand je suis plus fatiguée, surtout quand je suis plus fatiguée, quand je mange moins bien puis tout ça, j'ai plus de misère à sortir. Quand j'ai peur du jugement, ça dépend.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Il y a encore ces symptômes-là qui...
Qui sont jamais loin, finalement. Parce que ça, vous l'avez dit, hein, je ne suis pas guérie, je ne le serai jamais. J'apprends à vivre avec la maladie.
Oui, ben c'est ça, c'est guérir de ça, tu sais, en quelque part, je veux dire, tout le monde a du stress, si on guérit pas, tu sais, pour moi, c'est un peu, tu sais, c'est des symptômes de stress, puis tout ça, c'est sûr que je m'attends pas à un jour ne pas avoir de symptômes quand je suis stressée, tu sais, c'est un peu ça que je veux dire dans ce cas-là, l'idée, c'est de contrôler ce stress-là, puis ces émotions-là. Pour que ce soit le moins nuisible possible.
Mm-hmm. À travers votre parcours, Julie, vous avez quand même eu beaucoup d'obstacles sur votre parcours,
oui.
Faillite, perte d'emploi. Bon, ça a été entraîné par la maladie, ces obstacles-là?
Oui, bien, les rechutes, hein, ça va bien pendant un bout de temps, puis à un moment donné, ça va moins bien. Moi, j'ai eu beaucoup de symptômes physiques. Ça fait que j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, des rendez-vous chez le médecin. Le système est très compliqué, il y a beaucoup d'attentes. Donc, quelque chose que j'aurais pu régler en une journée, des fois, ça prenait 6 mois parce que pour avoir le bon service puis le bon médecin ou le bon traitement ou le bon test, il fallait que j'attende tout ce temps-là. Puis pendant ce temps-là, ça allait pas bien au travail. Donc, je perdais mes emplois ou ça allait pas bien à l'école ou... C'est le délai qui était quand même très, très dommageable.
Oui. Et d'ailleurs, ça, c'est une critique que vous faites, l'inaccessibilité des services de santé en ce qui a trait à la santé mentale, parce que vous l'avez vécu, c'est un constat.
Oui. Oui, totalement, parce que quand c'est un problème de santé mentale puis que tu fais une crise de panique, tu n'as pas besoin de tes soins de l'année d'après.
Ouais.
C'est vraiment, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a vraiment aucun bon sens. Puis en dedans d'un an, tu as le temps de tout perdre. T'sais.
Oui. Oui, puis de rechuter et que la maladie s'aggrave.
Oui, ben oui, totalement.
Est-ce que ça fait partie de votre bataille en tant qu'ambassadrice de peut-être rendre plus accessibles les soins de santé?
Oui, mais je crois aussi que, tu sais, si moi je me fie à mon histoire puis les 25 dernières années, c'est pas nécessairement juste, tu sais, les soins de santé, c'est bon pour, tu sais, j'ai pris une dose de médication, des choses comme ça,
oui.
Mais la société, moi, mon gros but dans cette campagne-là, c'est surtout de changer les préjugés puis de rendre la société plus ouverte. Puis qu'il y ait plus de flexibilité, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit parce que, tu sais, des fois, moi, si j'ai besoin de 3 jours pour me reposer, j'ai pas besoin d'un mois et demi de maladie. Puis on dirait que c'est tout ou rien.
Oui. Il y a un événement qui m'a beaucoup marqué dans votre parcours, Julie Tanseille, c'est-à-dire la fois où vous vous êtes auto-mutilée pour avoir un service, pour pouvoir voir un médecin. Et je me dis aussi, à quelque part, la maladie mentale, c'est un mal invisible.
Oui.
Est-ce que c'est ça qui entraîne la stigmatisation autour de la maladie mentale?
Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas de différence entre... Tu sais, quelqu'un qui ne comprend pas, si moi je dis non, je ne suis pas capable, puis je suis dans ma chambre, quelqu'un va dire, bien, fais juste sortir de ta chambre. Tu sais, c'est dur de comprendre que moi, je ne suis pas capable par rapport à quelqu'un d'autre de sortir de ma chambre. Tu sais, fait que c'est très, très, très intérieur.
Mm-hmm.
Puis les gens comprennent pas, puis je pense que c'est pas... Ils jugent ce qu'on comprend pas, dans le fond.
Mm-hmm. Et puis, est-ce que votre famille, votre entourage était présent au moment où vous étiez peut-être au plus creux de votre parcours?
Moi, j'ai été, à 14 ans, j'ai été placée sur les services sociaux. Donc, j'étais en centre d'accueil, foyer de groupe, puis tout ça, là, de 14 à 18 ans. Fait qu'au niveau de ma famille, c'est...
Parce que la famille, peut-être, avait un préjugé envers la maladie mentale. Julie Tansey?
Oui.
Oui. Vous avez compris ma question?
Je m'excuse.
Je parlais de la famille qui était peut-être plus ou moins présente ou pas du tout présente près de vous lors de votre maladie, des épisodes les plus graves de votre maladie. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une incompréhension?
Oui. En partie, je dirais oui, une incompréhension, mais sinon, plus j'ai pas le temps de m'occuper de ça, puis je vais laisser les professionnels le faire, puis...
Oui. Mais en ce sens, Julie Tansey, quels seraient vos conseils pour des parents qui ont accompagné leurs adolescents dans la maladie mentale?
Je pense que c'est important d'avoir de l'aide de l'extérieur. Quand c'est trop à l'interne, quand c'est trop proche de nous, je pense que c'est très difficile de même si on veut s'ouvrir et tout ça, je pense que c'est important que ce soit quelqu'un de plus neutre. Parce qu'en général, tu sais, il y a tout le temps un petit peu d'implication. C'est trop proche de ce qu'on vit. Parce qu'en général, tu sais, moi, c'est sûr que c'était associé à des choses qui se passaient avec mes parents. J'avais une famille qui était quand même assez dysfonctionnelle. Fait que c'est très dur pour des parents quand il y a une partie du comportement tu sais, qui vient un petit peu avec ça. Fait que moi, je trouve ça important de l'aide extérieure. Puis, c'est pas juste l'aide extérieure, je pense que c'est important, pas nécessairement juste, je veux dire, au niveau un psychiatre ou un psychologue, mais juste des gens, que ce soit de la relation d'aide, que ce soit des organismes, l'idée, c'est d'en parler à quelqu'un de confiance.
Ouais.
Peu importe qui est cette personne-là, ça aide beaucoup. Faut pas le garder. Faut pas le garder en dedans, faut que ça sorte.
Pensez-vous que d'aller chercher de l'aide, en fait, ça fait partie, j'imagine, c'est peut-être la partie la plus importante du processus de rétablissement?
Oui, d'aller chercher de l'aide, oui. Totalement, mais c'est surtout de le reconnaître. Oui, d'aller chercher de l'aide, parce que même si on le reconnaît, tout seul, c'est très difficile. Oui, je pense que ça prend... C'est très...
Julie, est-ce qu'on peut, arriver à accepter de vivre avec une maladie mentale?
Oui. Oh oui, totalement. Moi, comme souvent, je ne changerais pas de vie avec personne d'autre, malgré toutes les difficultés et les obstacles. Je pense que si on est capable de voir, il y a des bons côtés à ça.
Oui.
Il y a des bons côtés. Ça te force à travailler sur toi-même, ça te force à prendre soin de toi, ça te force à... Tu sais, on a tout le temps des forces puis des faiblesses. Fait que si on réussit à focusser sur les points forts puis de mettre les faiblesses de côté une fois de temps en temps, oui, c'est très, très possible et très gratifiant de vivre avec quelque chose comme ça.
Et vous le disiez tout à l'heure, ça vous amène à devoir réviser vos habitudes de vie. Vous le disiez tout à l'heure, quand mon sommeil est peut-être pas tout à fait adéquat, quand ce que je mange ne l'est pas non plus, ben mes symptômes sont accentués, je vais moins bien. Donc, il y a cette rigueur-là qui doit être dans votre quotidien.
Oui, totalement, oui. Puis c'est difficile, ça, je trouve ça très difficile. Tu sais, me lever le matin, moi, de faire du travail de 8 à 5, c'est un challenge, c'est un gros défi pour moi, mais il faut que je le fasse. C'est oui, il faut que je mette toutes les chances de mon côté, il faut que je me couche, il faut que je réussisse à...
Avoir une routine qui est saine, quoi. Julie, comment vous avez abordé ça avec... Parce que là, vous êtes au boulot en ce moment, là. Vous l'avez abordé avec votre employeur?
Oui.
Oui. Et ça s'est fait naturellement, sans tabou, parce que je le disais tout à l'heure, parler de santé mentale, c'est toujours choisir les bons mots, le faire avec transparence, délicatesse. Vous avez réussi à trouver ces bons mots-là pour l'exprimer à votre employeur?
Oui, c'est pas facile.
Mais vous avez réussi à le faire.
Oui.
Et Julie Tansey, oui?
Je suis désolée pour... Oui, c'est désolé, je suis au bureau. Je veux juste spécifier pour tout le monde, c'est pour ça que j'ai eu un petit arrêt parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le bureau. je voulais pas que ça paraisse trop. C'est pour ça que j'ai perdu le fil un peu.
En terminant, Julie, quels seraient vos conseils aux gens qui nous écoutent à la maison, soit parce qu'un proche vit un problème de santé mentale ou eux-mêmes personnellement, afin de mieux pouvoir les accompagner?
En fait, je vais revenir sur votre question d'avant, oui, en même temps que je réponds à celle-là, parce que c'est ça. Moi, ce que je me suis rendu compte pendant la campagne, c'est que plus j'en parlais ouvertement, plus j'étais sincère et plus j'expliquais, plus ça passait bien. Puis je suis au travail, puis j'ai encore, ils me permettent de faire cette entrevue-là cet après-midi.
Oui.
Puis ils ont accepté cette campagne-là. Je me suis affichée, tout le monde le sait, puis tout ça, c'est pas facile dans un milieu de travail. Mais le fait de l'expliquer, puis de le dire, puis de dire les vraies affaires, ça fait vraiment une grosse différence. Puis ça fait qu'il y a plein d'autres gens qui vont venir me voir, puis hey, j'aimerais ça être capable de faire ce que tu fais, tu peux-tu me coacher? Puis j'ai eu des tonnes de demandes à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment, vraiment important, puis c'est pour ça que je le fais.
Oui, parce que bon, la campagne se continue pour toute l'année, j'imagine, Julie. Est-ce qu'il y aura d'autres activités, d'autres sorties de votre part un petit peu partout au pays?
Il y en a eu beaucoup déjà. C'était la semaine, c'était surtout durant la semaine du 4 au 10 octobre. J'ai été en Alberta, à Toronto, à Ottawa, tout ça. On retourne, je sais qu'on va se réunir au mois de mai durant la semaine de santé mentale. J'ai encore des conférences chez Bell à Montréal, puis dans d'autres lieux là, qui m'ont demandé. Fait que oui, ça va continuer. Oui, ça va continuer le plus possible. Puis c'est important, puis ça fait vraiment une grosse différence. Ça bouge beaucoup, puis ça, je vois vraiment des gros résultats.
Mais pour quelqu'un qui vit avec l'agoraphobie, des troubles anxieux, de voyager autant, de rencontrer autant de gens, de serrer des mains, de parler de soi-même, c'est quand même un exploit, là, quelque part.
Oui, c'est très extraordinaire, je vais vous dire. Pour être bien honnête, quand je suis revenue de cette semaine-là, j'ai dû passer un 4-5 jours à la maison sans sortir.
Oui, parce que vous étiez fatiguée.
La fatigue, puis le tu sais, de se mettre à nu de même devant tout le monde, à un moment donné, c'est difficile. Après ça, il faut que tu confrontes les gens, tu sais, parce que là, la peur du jugement revient. Tu sais, il y a des choses qui sont revenues, là, tu sais.
Ouais.
Ouais.
Ça fait ressortir des choses.
Oui, oh, oui, totalement.
Mais en même temps, j'imagine que ça solidifie également à la fois.
C'est ça. Puis je m'en suis ressortie beaucoup plus rapidement. Ça a pris 4 jours, pas 25 ans. Il a fallu que je m'arrête un petit peu parce que là, ça débordait un peu au niveau émotion. Mais après une couple de jours, je me suis rendu compte, hey, je suis capable de faire ça, puis oui, je vais y arriver, puis je vais retourner travailler demain, puis je vais confronter tout le monde. Puis,
oui, parce que de devenir un modèle, ça vient également avec une part de responsabilité, et ça peut donner un petit peu le vertige là, quand on le constate.
Oui, très étonnée par toutes les demandes, les courriels et tout ce que je reçois. J'ai de la misère à répondre à tout le monde, puis je suis impressionnée par les réponses, puis c'est pour ça que je veux que d'autres personnes le fassent pour qu'on puisse aider tout le monde. Je pense que ça va vraiment être très utile.
Mais merci de le faire avec autant de transparence. Je le rappelle, Julie Tansey, vous êtes ambassadrice pour la campagne Les visages de la maladie mentale. C'est une campagne initiée par l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. Merci beaucoup. Bon après-midi au travail.
Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Marie-Claude Savant, c'est un plaisir de vous recevoir en studio.
Bien, je suis très contente d'être ici, de faire votre connaissance, de faire le tour. C'est un privilège pour moi.
Vous disiez, ça fait du bien de voir de nouveaux visages. Mmh. Vous aimez ça, le changement, finalement?
Je pense que oui. Bien, en tout cas, j'ai appris à l'apprivoiser, forcément, à l'accueillir aussi, et puis en reconnaître les bénéfices, parce que je pense que plus on avance en âge, des fois, plus on veut rester dans nos pantoufles, dans ce qu'on connaît. Et ça prend de plus en plus d'élan, tu sais, pour aller vers l'inconnu, si on veut. Et ben aujourd'hui, je me rends compte que souvent dans l'inconnu, il y a des affaires le fun aussi.
Vous en parlez justement dans ce deuxième livre intitulé « 180 degrés, virage d'une vie », publié chez Libre Expression, donc deuxième bouquin pour vous. C'est un récit qui est très personnel, livré quasi comme un journal intime, Marie-Claude. Et moi, ce que je retiens, en fait, ce que j'ai constaté d'entrée de jeu, c'est qu'un changement, ça vient souvent d'un malaise, d'un questionnement, d'une prise de conscience. Et en tout cas, pour vous, ça a été ça. Vous vous êtes dit, comment moi, je peux vivre autrement que par le stress, les contraintes, des horaires de fou? Comment je peux être plus en accord avec moi-même et vivre plus librement?
En fait, moi, je me disais, parce que je viens d'une famille où on disait toujours, mon grand-père disait, l'argent pousse pas dans les arbres. Ma grand-mère disait toujours, faut travailler fort dans la vie. Donc, on est vraiment une famille de bûcheurs, de battants, si on veut, ce qui est très valorisé en soi dans la société. Puis après avoir traversé des grandes épreuves, avoir été une battante dans le monde des sports avec des hommes.
Ensuite, pionnière, en quelque part,
un peu,
aussi.
Ou en tout cas une des premières, mais tu sais, d'avoir défriché du terrain, ensuite d'avoir vécu des grandes épreuves, quand je me suis retrouvée de l'autre côté, et là, je me suis dit, je suis un peu fatiguée, un peu même beaucoup. Est-ce que c'est possible de vivre de manière plus douce? Est-ce que la vie peut être facile pour moi? Parce que je constatais qu'elle l'est. Tu sais, pour des gens autour de moi, je voyais que la vie était plus facile. Je me disais, comment est-ce que je pourrais, moi, changer ma boussole un peu pour m'orienter, si on veut, vers ça? Fait que c'était un long processus que j'appelle donc le 180 degrés, virage d'une vie, qui m'a amené finalement à me rendre compte que c'est pas autant dans l'action que dans la perception et dans la façon de traiter la vie que ça fait une différence. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ben oui, mais là, quitter un emploi, puis faire ci, puis faire ça. Non, c'est pas dans l'action. Pour moi, ça a été ça, mais c'est pas ça.
On vous a dit même, lorsque vous avez annoncé de votre propre chef votre démission, de salut, bonjour, ouais, ben là, tu te lances dans le vide. Je parlais dernièrement avec quelqu'un qui me disait que pour un funambule, hein, quelqu'un qui marche sur un fil de fer, au fond, avancer, c'est moins risqué que de rester immobile.
Absolument. Et cette espèce de notion, parce que je me suis rendu compte d'une chose, quand j'ai démissionné de salut, bonjour, c'était pour les bonnes raisons. Ça faisait 7 ans que j'étais là. J'avais cette fatigue, si on veut, des travailleurs du matin, de gens qui consacrent les week-ends, le soir, tu sais, qui se consacrent à 100% à leur travail. Moi, je me suis dit, je peux pas juste être ce que je fais. Il va falloir à un moment donné que j'existe à l'extérieur de mon travail. Donc, c'est souvent une décision qu'on prend au tournant de la quarantaine, puis j'arrivais là.
Oui.
Donc, je prends ma décision, mais c'est de voir la réaction des autres par rapport à cette décision-là. Moi, ma patronne, après un long silence, m'a tout simplement dit, ben tu te lances dans le vide.
Oui, c'était peurant, ça, quand on reçoit ça.
Oui, mais en même temps, je me suis dit, OK, parfait. Le vide fait peur, mais dans le vide, il y a de l'espace. Là où il y a de l'espace, il y aura des possibilités. Et donc, ça vaut mieux apprivoiser le vide plutôt que d'essayer de le combler. J'imagine que pour le funambule, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si tu continues à avancer, tu n'as pas le temps de penser à tout ce qui se passe.
Oui.
Des fois, c'est plus facile.
Savoir d'où on vient pour savoir où on va, c'est quelque chose que vous avez peut-être voulu vérifier en allant à la rencontre de vos origines autochtones avec un homme médecin amérindien.
Oui, ça c'est extraordinaire, c'est un hasard de la vie. Où on dira peut-être qu'il n'y a pas de hasard, mais en tout cas, en grande période de questionnement, à un moment donné, je me rends compte que j'ai des racines amérindiennes. Chez le dentiste, en plus, en me faisant faire un traitement de canal, je me rends compte que j'ai des racines de dents d'amérindien. Bref, je me retrouve à avoir le privilège d'aller faire une retraite dans le bois pendant 3 jours avec un chef amérindien. Et souvent, quand on est en période de questionnement, on étudie, que ce soit la philosophie bouddhiste, on se met à faire du yoga, etc. C'est de superbes philosophies qui viennent de très loin. Puis, tu sais, chez nous, dans la forêt boréale, on a des aussi, qui ont des choses à nous enseigner. Puis moi, j'avais plein de préjugés sur la culture autochtone. Bref, je suis partie 3 jours dans le bois. J'ai fait plein d'expériences avec lui. Et essentiellement, ce qu'il m'a dit, Marie-Claude, il m'a dit, t'as un feu sacré à l'intérieur de toi, qui est ton énergie vitale. Et la seule chose que tu puisses faire, c'est de trouver du bois sec pour nourrir ton feu sacré. Et en faisant ça, tu vas être éclairé. Ton instinct va être un petit peu plus aiguisé. Donc, tu vas trouver la bonne voie. Les bonnes personnes vont venir à toi parce qu'on veut venir se réchauffer auprès d'un feu. Et surtout, au lieu de te sentir vidé toujours, tu vas te sentir nourri.
Remplie, pleine, quoi.
Ben ouais. Voilà, comme un feu. Et donc, moi, je me ramassais avec une petite braise à peine. Et j'ai donc bâti pendant quelques mois ce feu-là. Et aujourd'hui, c'est ma façon de voir les choses. C'est, dans le fond, c'est ça, le 180 degrés. Ce que je disais tantôt, c'est que c'est pas nécessairement de laisser un emploi, de faire des immenses changements. C'est peut-être juste de voir la vie différemment.
Et les changements s'exercent à l'intérieur de soi. Ça, vous le dites dans le livre, et pas à l'extérieur. Hein? On arrête de chercher à l'extérieur. Ce périple-là avec vos racines autochtones, ça a été aussi une façon de renouer avec votre instinct, vous qui vous disiez peut-être un petit peu plus contrôlante avant.
Oui, un petit peu plus contrôlante et aussi préoccupée, je pense, par la perception des autres, oui. Peut-être plus que je pensais. Je ne m'en rendais pas nécessairement compte. Donc, les attentes que les autres avaient par rapport à moi, les attentes que je me mettais sur les épaules, qui avaient peu à voir avec la vraie personne que je suis. Donc, il a fallu que je détricote un peu tout ça pour aller à la rencontre de la vraie Marie-Claude qui existe à l'intérieur, ensuite lui donner la place, nourrir mon feu sacré, puis ensuite créer une certaine distance entre l'environnement autour,
oui.
qui est très présent parce qu'on est tellement stimulé, tout le monde a une opinion sur ce que tout le monde fait. À un moment donné, il faut juste, OK, relaxer, respirer, faire « wow », ça va aller, puis je suis capable d'assumer mes propres décisions.
Mais je veux en parler des autres, justement, Marie-Claude, parce que changer, ça ébranle les fondations, et des fois, ça fait peur à des gens qui s'éloignent de nous, et d'autres se rapprochent. Bon, vous avez l'air super bien entouré, vous parlez de vos amis, de votre conjoint également, dans ce livre-là. Mais est-ce qu'il y a des gens qui se sont éloignés de vous?
Je pense...
Vous étiez nouvelle, en quelque part?
Je pense que, naturellement, il y a un certain ménage qui se fait. Peut-être que... Aujourd'hui, je donne mon temps différemment. C'est-à-dire que j'ai besoin de temps de qualité, puis j'ai besoin que ça soit à double sens, une relation. Donc, tu sais, quelqu'un qui est toujours en demande, ou je suis plus nécessairement capable d'être toujours en relation d'aide. J'ai besoin aussi qu'on me redonne. Fait que je pense que naturellement, il y a des gens, c'est comme des satellites qui gravitent, à un moment donné, qui partent peut-être vers d'autres univers. Puis oui, je pense qu'il y a eu un ajustement, certainement une transition dans mon entourage, et il y a des relations qui ont changé de nature.
Ouais.
Et ça aussi, c'est un beau cadeau, parce que des fois, quand on s'ouvre le cœur un petit peu, là, puis qu'on prend le temps, bien, on découvre. On peut redécouvrir des amis. On s'est éloigné des fois à travers le temps, à travers la vie, les occupations. J'ai redécouvert beaucoup d'amitiés. Oui, j'en ai perdu quelques-unes, mais qui dit? Peut-être que dans 20 ans, à un moment donné, on va se retrouver à nouveau.
Ouais. dans un autre virage.
Peut-être, parce qu'il y en aura d'autres. C'est ça, la beauté de la vie.
En terminant, ce serait quoi vos conseils pour des gens qui ont peur du changement, mais qui auraient donc envie, quelques trucs?
De la douceur, c'est-à-dire des petits changements. Des fois, on part en fou, puis on veut tout changer. Je ne mangerai plus de gluten, je vais me mettre à m'entraîner. T'sais, on fait des grandes révolutions de vie. Petits changements, tout petits. D'être patient, parce qu'on avance, on recule, on doute. De partager aussi avec les autres, de ne pas trop s'en faire. Je pense d'y aller avec humour, en se disant que la vie, ouais. C'est ça, dans le fond, c'est un immense changement, une mouvance constante.
Et de l'humour, ben ça manque pas dans votre récit, Marie-Claude Savard. Moi, je dirais que j'ai appris à vous connaître à travers ce livre-là, 180 degrés, virage d'une vie. Je le rappelle, c'est publié chez Librex, sorti hier, donc tout beau, tout chaud encore. Et nous, on continue à vous suivre sur Canal Vie Énergie.
Absolument, merci beaucoup.
Ça a été un plaisir. Rémi Hermoso à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche, Marianne Paquette au micro, merci d'avoir été là. Ben, on se retrouve, nous, demain, 14h. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Bye-bye!